On s'est retrouvé avec le père François Xavier un peu avant la conférence dans son bureau. Ça faisait drôle de le voir dans son univers. Et puis de quoi on a parlé? Toutes ces années écoulées qui fait que on n'est pas exactement le même. C'était très très beau. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. La paix intérieure, chers amis, qui parmi nous n'y aspire pas? La sérénité profonde, si on faisait un micro-trottoir, il me semble que c'est la valeur numéro un qui est plébiscitée aujourd'hui. Surtout avec cette histoire de profiter, et puis avec cette histoire de frémissement de canon qui commence. L'unité paisible de tout l'être est-elle possible? Oui, dit l'Écriture. Poursuis la paix, recherche-la, dit le psaume 34. C'est d'ailleurs devenu un très très beau petit livre du Père Jacques Philippe. Le problème est le suivant, mes amis, c'est que pour obtenir un tel trésor, la paix profonde, c'est qu'il faut se préparer à la guerre. Pas celle qui vient avec eux-mêmes, la guerre intérieure. Civis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, fais la guerre. Il va falloir mener une guerre entre tout ce qui en nous ne favorise pas l'unité intérieure et la paix profonde. Notre Dieu s'appelle le Prince de la paix et il veut qu'on soit en paix. Donc le combat spirituel est indispensable pour les personnes qui veulent connaître une unification profonde dans la vocation qui est la nôtre. J'arrive de Jérusalem. J'étais dans la banlieue musulmane, à Bourgoche, à prêcher dans un monastère de bénédictins et de bénédictines. Dans la sacristie, il y avait Paul VI rencontrant Athénagoras, le patriarche orthodoxe de Constantinople. Écoutez ce que dit Athénagoras. Pour que cette histoire de combat, de bataille, ce qu'on n'aime pas trop aujourd'hui, disait ceci-là, que c'est un peu une mentalité de renom, il ne faut pas dire trop de choses. Pour que vous n'ayez pas peur du mot combat spirituel, et qu'il est accroché au mot paix et au mot Seigneur, la Athénagoras. Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. Ça va? Ça vous rassure? En fait, c'est une guerre où on va déposer les armes. Il ajoute. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien. Car l'amour chasse. Quand on partageait avec votre pasteur, Père François Xavier, il y avait quelque chose de ça. Il y avait quelque chose de ça. Pourquoi le combat spirituel est-il nécessaire? D'abord, il faut se réjouir. Vous avez dû voir qu'il y a eu plusieurs publications sorties depuis plusieurs années sur le combat spirituel. Il faut se réjouir. On parle à nouveau du combat spirituel à l'intérieur de l'Église. Parce qu'on ment aux gens en leur promettant une paix intérieure qui ne passe pas par leur propre combat. On ment aux gens, et je parle de moi. Je ne veux plus mentir aux gens. On est dans une mentalité, vous voyez bien, un moindre petit problème, tu pourras cacher. Et là, en fait, la clé du combat, elle est à l'intérieur de toi. combat, mais parce que tu as le Christ qui habite en toi. Qu'est-ce que c'est le combat spirituel? C'est en fait laisser Jésus vivre en soi. Laisser Dieu être Dieu en soi. Empêcher tous les obstacles possibles pour qu'il puisse exister en toi et tu seras en toi. Pourquoi le combat spirituel? On pourrait proposer cette définition suivante. C'est la participation active, pas subie, active, de chacun d'entre nous à la victoire du Christ sur les forces du péché et du mal. Et avec la grâce du Christ, il nous revient de collaborer à notre purification personnelle et à notre sanctification, à notre élévation en Dieu. Qui va signifier notre Père profond? Vous voyez, il y a un très grand saint pour moi, le plus grand saint de la vie spirituelle, et Jean de la Croix. Il a une parole très forte, surtout aujourd'hui, vous voyez, mais on est obsédé de la santé. Il dit Dieu est la santé de l'âme. Pourquoi le monde va si mal, mes amis, à votre avis? Mais la clé, elle est là. Le Concile Vatican II le dit. La créature sans le Créateur s'évanouit. Regardez aujourd'hui, un animal est supérieur à un homme dans l'antispécisme. On ne sait plus. Un commentaire de la Bible qui s'appelle le Talmud dit: sache où tu viens, tu sauras où tu vas. Les gens ne savent plus où ils vont, parce qu'ils ne savent plus d'où ils sont. Le lumineux catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1426, expose le pourquoi du nécessaire combat spirituel. La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne, traduisée dans le même, n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne aidée par la grâce de Christ. Écoutez ça, ce combat spirituel est celui de la conversion. Si le mot combat spirituel vous gênait, parce que vous paraissez trop belliqueux, eh bien, vous préférez peut-être le mot conversion, c'est la même chose. Saint Augustin dit ceci: Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu ne met pas au ciel quelqu'un de force. C'est pas l'amour. Ça s'appelle du viol. Il ne peut pas violenter la liberté d'une personne. Elle a la capacité de dire non. Elle a bien sûr la capacité de dire oui. Le combat spirituel est un immense honneur que Dieu nous fait. Il nous fait collaborateurs de notre ciel. Il nous fait coopérateurs de la grâce de Dieu en nous. Trouvez-moi une religion qui met à ce point d'honneur l'homme à la créature. Saint Jean de la Croix, pour lui, un langage très simple. Il dit, pourquoi le combat spirituel, on est toujours dans notre question, pourquoi est-ce nécessaire? Il dit, en utilisant une image de l'oiseau, sera repris par Thérèse, je suis comme un frère, le petit frère, le petit père. Voici ce que dit Jean de la Croix. L'oiseau qui se repose sur un multiple pain et sapin dans votre coin, vous venez là avec vous, vous habitez dans cette région, je suis passé à l'église. L'oiseau qui se repose sur la glue s'engage à une double peine. L'une est de se détacher et l'autre de se nettoyer, parce que s'il repose, même s'il s'est détaché, s'il repose ses petites griffes sur un vivant corps, double peine. Ainsi, celui qui satisfait son attachement désordonné travaille-t-il doublement premièrement à s'en détacher, et une fois détaché, à se débarrasser de la souillure de l'attachement. Avançons, troisième point. Mener le combat à partir du Christ qui est le victorieux du mal. Jean-Paul II disait que les lieux de pèlerinage comme Lourdes étaient comme des laboratoires de la foi. J'oserais dire, non pas pour vendre ma boutique, mais que les retraites, c'est vraiment des laboratoires de la foi. Non pas au sens où nous sommes des cobayes, mais c'est vraiment des laboratoires de la foi. Et je remarque une chose, bien sûr qu'il y a autant d'âmes, autant d'itinéraires qu'il y a d'âmes, mais il y a quand même des constants. Et il y a ceci que je vois chez beaucoup de catholiques pratiquants. Il y a beaucoup de catholiques pratiquants généreux pour Dieu. Il y en a finalement assez peu qui permettent à Dieu d'être généreux pour eux. Et ce n'est pas simplement faire sonner le verbe, c'est la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens pour Dieu, et finalement assez peu de chrétiens à partir de Dieu, qui vivent en tout à partir de Dieu. Et c'est pareil chez les consacrés. La majorité de mon temps, c'est des consacrés, des moines, des moniales, des prêtres. Quand vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que ça, quand ça se traduit concrètement? Quand vous n'êtes pas bien, quand vous vous sentez impuissant dans telle ou telle difficulté de la vie, et chez vous, les parents, ça va être souvent vos enfants. Combien de fois dans les retraites on voit ça, on entend ça? Est-ce que vous avez le réflexe d'appeler Jésus et d'appeler Marie pour être épouse avec un époux, par exemple, qui peut être, je ne sais pas, manquer de patience. L'inverse peut exister aussi, peut-être, non? Je ne sais pas. En tout cas, avec des enfants, pareil, dans le travail. Devinez, nous partageons ça avec François Xavier. C'est aussi notre lot quotidien, on est immergé dans les soucis matériels, les soucis des âmes. Alors vous avez deux solutions. Soit vous voulez vous en sortir tout seul, ben vas-y, je vais voir ce que ça va produire. C'est chrétien pour Jésus et assez peu à partir de Jésus. Ça fait souvent des chrétiens tendus, perfectionnistes et finalement amers. Parce qu'ils ne savent pas se reposer sur Dieu. Ils n'imaginent même pas qu'on puisse dire à Dieu d'être Dieu dans sa vie. Ça leur paraît des trucs de curé comme ça, comme disent les jeunes. Alors que c'est au fondement de la religion. Je vais vous donner un exemple très beau dans l'histoire de la mystique. Catherine de Sienne, une âme de feu, en amoureux de son Jésus. Et Jésus permet, à un moment dans sa vie, alors que c'est une âme particulièrement pure, d'être attaqué par des pensées immondes. Écoutez ce qu'il dit. Il a raconté ça dans les lettres. Le diable dit, c'est inutile, tu ne pourras pas résister, d'ailleurs tu as déjà péché et Dieu t'a abandonné. Catherine s'écrit, ô Seigneur, à mon secours, me voilà le réflexe. Souvent, pour beaucoup de catholiques, Dieu est la cinquième roue de la charrette. Et après, il s'étonne que c'est bancal. C'est peut-être le premier à qui on appelle. Je ne sais pas comment fonctionner, mais dès que j'ai un truc que je n'arrive pas à m'emballer, je fais comment? Ça ne me semble pas comment il fonctionne. Que ferait Jésus à ma place? L'orage de la tentation passée pour notre Catherine de Sienne, comme ces êtres-là, ont une familiarité très grande avec le Seigneur Jésus. Jésus lui apparaît. Et elle lui dit, mais enfin, Jésus, où est-ce que vous étiez? Dans ce combat humiliant dans lequel je ne suis pas tombé, mais où est-ce que vous étiez? Écoutez, réponse du Seigneur Jésus. Sache, ma fille, que tu souffrais parce que j'étais caché au milieu de ton cœur. Si j'avais été absent, ces pensées t'auraient pénétré le cerveau, mais ma présence les a rendues ainsi insupportables. Écoutez ça. J'agissais en toi, Catherine. Je défendais ton cœur contre l'ennemi. Jamais je n'aurais été plus près de toi. Quand vous avez des tentations, quelles qu'elles soient, vous pensez automatiquement, parce que c'est des antinomies dont parle le Père Marie-Eugène, nous pensons qu'il s'éloigne, alors qu'il n'est jamais plus près que lorsque nous sommes aux prises avec le combat. Mais est-ce que nous lui faisons appel, puisqu'il n'y a pas plus près de nous que Dieu? Saint Augustin, Dieu dit, Dieu est plus intime à mon âme que moi-même. Il est plus intime à toi-même que toi-même. Faites le choix, les amis. Pour moi, c'est une des plus grandes joies dans les retraites, je ne vous cache pas. C'est quand je vois des laïcs qui, par exemple, ont de la peine avec leurs enfants et puis qui multiplient les prières de demande. Et puis au bout d'un moment, ils apprennent à se lâcher en Dieu. Vous les retrouvez un an après, c'est pas le même. Et pour avoir été à la Réunion, à l'île de la Réunion, il y a une expression, c'est étrange de papa. Oui, il y a une joie profonde, c'est ça. Avançons. Autre ligne de force que j'ai remarquée, qui traverse toutes les âmes dans ces retraites qui sont des laboratoires de la foi. J'ai remarqué que les personnes qui entretiennent un nom, NOM, plus ou moins conscient, la plupart n'ont pas toujours conscience, ils entretiennent un nom pour des choses qu'ils ont subies ou pour des choses qu'ils ont commises. Ou pour des manques d'affection, d'un père absent, froid, d'une maman étouffante, enfin, toutes les catégories qui peuvent exister. Quand ces gens entretiennent un nom, ça gangrène des amertumes profondes. Il ne peut pas y avoir de vrai joie. Par contre, ces mêmes personnes qui ont pu souffrir énormément, mais qui à un moment disent oui, un oui très profond à ce qui fut leur existence, il y a une paix profonde qui s'installe. Attention, ce n'est pas du fatalisme. Il m'est arrivé de dire à des gens qui ont subi des agressions profondes, non, il faut aller en justice. Vous voyez ce que je veux dire? Les raisons qui nous font nous installer dans le nom LOM, sont multiples. Parmi les plus fréquentes, on peut signaler et épingler ceux qui sont posés, les noms qui sont posés par les souffrances, par les péchés et les refus de pardon. Lorsque la souffrance est non accueillie, elle devient source d'amertume. Je m'étais trouvé à rencontrer une petite dame un jour dans les périples paroissiaux. Une belle âme, toute petite dame, mais grande âme. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Très humble. Et puis, elle voulait participer un jour à une retraite. Et puis, on lui a découvert un cancer. Elle a dû subir des traitements. Et elle avait découvert quelques années avant, en lisant la sagesse de la croix, s'abandonner à Dieu à la croix. Et ça avait complètement changé sa vie. Quand elle a fait le cancer, elle devait venir à la retraite. Et elle a envoyé une lettre, elle devinait, j'ai lu ça aux gens, sans leur dire d'où ça venait, parce qu'il faut garder, bien sûr, la pudeur et la discrétion. Mais c'était extraordinaire, cette petite coupe de femme. Dit une grande âme. Il dit, mon père, je ne peux pas aller à la retraite, ce fut une grande souffrance, mais je vais offrir mes traitements de chimio pour les retraitants qui vont. et ainsi c'est. Et je vais faire que le Seigneur donne des grâces puisque je vais aimer dans ma souffrance. Les enfants de cette dame ne reconnaissaient pas leur mère, tellement elle était rayonnante et que ça lui va. Peut-être vous connaissez l'abbé bénédictin, qui est anglais mais qui a vécu en Belgique, Don Colomba Marmot. Très belle figure. Il vient d'être béatifié il y a quelques années maintenant. Je l'aime bien parce que d'abord, ce qu'il écrit, c'est extrêmement connaissant. Vous avez le Christ idéal de l'âme, le Christ vital, pardon, le Christ idéal du prêtre, le Christ idéal de l'âme. Et ce type-là était moine et il faisait 100 kilos. Et quand on voit un bon gros moine de 100 kilos, on se dit, ça fait pas trop sérieux, quoi. On se dit, attends, il y a de la sainteté là-dedans. Il était très ami de saint Pilice. Et quand deux saints se rencontrent, ils sont enfants. Et un jour, quand Colomba Marmot vient le voir, il n'y avait personne, il n'y avait pas de carte suisse. Il lui dit, votre sainteté, j'ai un problème. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je suis enfant et malade. En fait, il dormait tout le temps. Et il faisait oraison. Imagine le grand les moines, ça fait des erreurs. Il a trouvé Saint-Pédis et il dit, votre sainteté, vous voudriez prier sur moi, j'ai un gros problème, j'ai une maladie, je m'affaisse très facilement, je dors très facilement. Pédis, paf, ça n'a pas marché. Mais quand même, ça a marché, en 250. Donc, Colomba Marmot, il dit ceci, je vais bien. Parfois fatigué et juste assez souffrant pour souffrir, sans être assez pour être vraiment malade. Et Jésus a permis qu'il ait ça toute sa vie. Combien de gens ont de retraite, je vois ça, qui ont des fatigues chroniques, qui se disent, attends, je vais être normal. Combien de personnes comme ça? Et voici ce qu'il dit. Lui, il a passé son temps à dire non, dans un premier temps de sa vie. Je veux pas cette fatigue, je veux pas ça, cette fatigue chronique. Ce truc que les médecins n'arrivent pas à m'enlever. Et puis à un moment, à force d'agonie de l'âme, il a fini par basculer et dire oui. Et là, il a vécu un envahissement de l'Esprit-Saint qui ne l'a jamais quitté. Écoutez-le. Acceptons, si Dieu nous l'envoie, la maladie ou ce qui est parfois plus pénible, et il parle de son expérience, un état maladif. S'il y en a qui sont là. Il doit savoir ce que c'est. Une infirmité qui ne nous quitte jamais. Si nous le faisons, si nous disons oui, avec une amoureuse soumission à Jésus qui n'est qu'un mot, notre âme s'ouvrira de plus en plus à l'action divine. Et François Xavier, tout à l'heure, a dit avec un petit mot, j'ai vécu une conversion, et en disant, cela peut arriver quand on est prêtre. Je vous le dis parce que j'ai remarqué que dans les retraites, ça touche beaucoup les gens. Une des conversions, c'était que je ne disais pas non, pas je ne disais pas oui au plan de Dieu sur moi. Et donc, je vous dis, faites pas comme moi. J'ai passé 20, 30 ans à dire à Jésus, enlève un truc chez moi. C'était juste, me semble-t-il, des limites, hein, on va être simplement. Des limites, enlève ça, je serai un bon prêtre pour toi, je te promets. Et puis il m'a fallu 20 ans, 30 ans, pour enfin entendre. Dis-moi oui, Jésus, sur ce que tu n'as pas dit oui. Et quand tu m'auras dit oui, je ferai un prêtre, selon le cœur à moi, mais pas selon ton plan. Je vais vous dire. Vraiment, les plans ne sont pas ceux de Dieu, car prêcher à plein temps peut être inimaginable. Moi, je pensais, si j'y arrivais juste à être prêtre, curé, comme le père François Xavier, pensais pas du tout. Oh, quand j'entends dire, vous pensez vraiment que Dieu, il a un plan sur chacun? Mais bien sûr qu'il a un plan sur chacun. Mais ce n'est pas un plan prédéterminé au sens où c'est sur des rails. Mais si tu dis pas oui, il ne peut pas le déployer. Alors on ne voit pas les résultats. Puis on ne voit pas la paix. Je vous avoue que je ne voudrais pas revenir en arrière. La paix est très profonde. Alors vous avez des problèmes de paix. Je sais que les problèmes de monter. Vous allez croire, montez, vous allez vous approcher de Jésus, tu vas croire. Alors vous allez dire, ben, il faut partir. Mais non, ne partez pas, attendez. Plus vous fréquentez Jésus, plus vous aurez le droit. Plus vous fréquentez Jésus, plus vous aurez la paix. Et puis il va vous donner sa force pour le porter. Mais vous comprenez, ce n'est pas dans des bouquins qu'on apprend ces choses-là. C'est dans l'expérience. Maintenant, le péché. Beaucoup de gens disent non à des péchés commis ou des péchés subis. Si vous saviez la joie, comme prêtre dans les retraites, ou même comme curé de paroisse, quand on rencontre parfois des gens qui ont 80 ans, du moins un âge avancé, disons, et puis qui portaient des choses très difficiles dans leur vie, et puis tout d'un coup, ils lâchent le truc. Mais c'est des... quand j'entends des catholiques nous dire qu'ils ne vont pas être trop marrants, on perd de confesser, mais enfin vous savez. Mais c'est des résurrections auxquelles on assiste, les amis. C'est extraordinaire. Si vous dites qu'un catholique dit ça, c'est la partie qu'on ne fait pas, enfin. C'est extraordinaire, les gens. Le docteur Béglé, psychanalyste à la retraite, dit ceci. Ce que l'être humain supporte le plus mal, c'est d'avoir mauvaise conscience. Péché sur la vie. La liberté peut être dangereuse pour notre santé psychique quand nous l'utilisons pour faire le mal. Et évidemment, elle nous est bénéfique quand nous la tournons vers le bien. Nous avons une capacité énorme à camoufler nos drames intérieurs. Heureusement, vous allez dire d'une certaine manière, parce que la vie, c'est invivable. Mais lorsque les âmes s'ouvrent en vérité et humilité, on est surpris par les amertumes, les haines que les gens entretiennent, pas avec les autres, vis-à-vis d'eux-mêmes. Un autre psychanalyste, Victor Frankl, qui celui-ci s'est démarqué de Freud, fort heureusement, et qui a découvert sa thérapie dans les camps de concentration, auquel il a échappé. Je vais essayer de dire de mémoire parce que je n'ai pas ce que j'ai vu. Mais il dit, sans ceci, placer une personne devant un miroir, enlever de sa tête toute idée de Dieu, d'ange ou de démon. Vous pouvez dire à cette personne, tu as devant tes yeux le plus grand ennemi de toi-même. Les gens, beaucoup de gens, ne se rendent même pas compte. Ils ont une forme de détestation à cause de choses vécues, de choses commises ou de choses subies. Joseph Ratzinger a des paroles lumineuses dans un de ses livres sur la haine de soi. Il dit « Existe-t-il à proprement parler un amour de soi ? J'ai lu dans le journal d'un curé de campagne de Berlanos la dernière phrase de cette âme souffrante s'est imprégnée en moi de manière indélébile. Il n'est pas difficile de se haïr, mais la grâce des grâces serait de s'aimer soi-même comme n'importe quel membre du corps du Christ. Et le pape, le futur pape, de conclure, celui qui ne s'aime pas aura beaucoup de peine à aimer son prochain. Parce que il y a la vie elle ressemble à un triangle. Et à un point du triangle, il y a Dieu, un autre, il y a le prochain, et un autre, il y a moi-même. Et tant que ces trois angles, dit Martin Luther King dans un sermon à Dexter, ne sont pas équilibrés, il y a un déséquilibre. Le moindre psy vous dira, Une personne qui a entretenu une haine d'elle-même aura de la peine à aimer et à se laisser aimer. Voilà pourquoi il est important de passer du non au oui. Et là, on a une grâce extraordinaire. C'est la miséricorde de Dieu, mes amis. Tu pourras courir plus vite que Monsieur le Bol, je peux te dire que la miséricorde courra toujours plus vite que toi. Mais est-ce que tu vis de la miséricorde? Est-ce que tu te confesses? Est-ce que pour toi c'est une corvée? Tu sais pourquoi c'est une corvée? C'est le grand entre nous qui dit ça. C'est parce que tu projettes sur le regard du prêtre ce que toi tu projettes comme regard sur toi. Quand tu te détestes, tu te dis, qu'est-ce qu'il va penser de moi le prêtre? Il s'agit de le prêtre, c'est ce qu'on fait. Mais on n'a pas forcément tué le père et la mère. J'ai remarqué que plus les couples avancent en âge, s'ils sont amoureux, plus ils se demandent pardon pour des riens pour lesquels ils ne se demandaient pas pardon au début du mariage. Parce que c'était un amour mal dépensé. Et vous voudriez qu'au niveau de la foi chrétienne, ce soit différent que l'amour d'un couple. Et ce devrait être exponentiel. Plus on avance, vous voyez chez les saints, plus il y a une délicatesse pour les moindres péchés commis. Lorsque le refus de pardon maintenant, c'est aussi une expression, une manifestation du non, empoisonne la vie. Je vous ai dit, le refus de se pardonner engendre souvent le refus de pardonner. Le refus de se laisser aimer engendrera le refus, la difficulté à aimer. Les témoignages sont plus parlants souvent que les grands discours. J'ai eu la grâce de rencontrer Martine, elle. C'est elle, c'est son nom. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Le jour où j'ai pardonné les crachats de ma mère ». Je ne vais pas entrer dans les détails. Une mère, et puis bien sûr un père qui était absent, parce que se marier avec ce genre d'épouse ne peut qu'être quelqu'un qui est complètement pitié. Donc une vie de torture avec cette mère. Puis sa mère et moi. Donc j'ai eu la grâce de rencontrer dans une retraite cette jeune femme qui a écrit un bouquin aux éditions de Médicine. Voici ce qu'elle dit. Donc sa maman est morte depuis longtemps, elle était enterrée au cimetière, pas très loin. Et à un moment, elle a découvert qu'il fallait qu'elle bascule en Dieu. Et le combat spirituel, c'était d'accueillir le pardon de Dieu qui lui était impossible à donner comme ça. Regardez derrière le crucifix. Qu'a dit Jésus sur la croix? Il n'a pas dit « Je vous pardonne, bande de salopards ». Tout fils de Dieu qu'il est, il a dit « Père, pardonne-leur ». Ça, c'est une autre constante que j'ai vue comme ça. Pourquoi beaucoup de personnes peinent à pardonner des choses difficiles? Parce qu'ils veulent pardonner à partir de leur vertu, de leur capacité d'aimer. Il y a un moment, il faut dire « Jésus, j'y arrive pas ». Mais toi, tu es le maître de l'impossible. C'est ce qu'il a fait. Je l'ai fait. J'ai remis à lui toute ma souffrance et toutes mes blessures. Il a ouvert mes mains et les a prises. Il m'a soulagé de ce fardeau inhumain que je ne pouvais plus porter seul. Je suis allé sur la tombe de ma mère. Nous avons eu le seul cœur à cœur qui puisse se faire entre une mère et sa fille, au-delà du silence de la mort. Je lui ai dit, je te pardonne, maman, je te pardonne tout. Ce que tu as fait est grave, je ne le ministre en aucune façon. Mais je veux te donner une parcelle de l'amour que je reçois aujourd'hui du Christ. Elle ajoute, mes larmes, après avoir prononcé ces paroles au cimetière, furent pour la première fois de ma vie apaisement et non révolte. Je savais que lorsque moi-même je serai là-haut, ma mère saura m'accueillir et qu'elle aura sur son visage le sourire que je ne lui ai jamais vu. J'étais alors en paix. Je découvris avec étonnement l'immense bonheur que le pardon procurait. Elle ajoute, sans pardon, l'âme reste emprisonnée dans des ressentiments et de la tristesse. Elle ajoute, oh, qu'il en coûte de pardonner, notre orgueil est toujours si fort en chacun d'entre nous. Je voudrais maintenant, si vous voulez, à propos du combat spirituel, je voudrais vous parler de quelques petits points de mortification, d'ascèse. En latin, mortification, mortificare, faire mourir. Or, je vais le dire maintenant. J'ai un ami prêtre qui, il y a plusieurs années, était curé et qui me dit, au détour d'une discussion, « Ah, nous, prêtres, nous avons perdu le sens de la sève. J'ai senti un appel, je vais me lever toutes les nuits de jeudi à vendredi et j'adorerai Dieu pour sa gloire, ma conversion et pour le bien du paroissien. » Il n'est pas très bien, c'est la vie. J'avais été très bouleversé. Nous avons perdu le sens de la mortification de l'ascèse. Je voudrais vous proposer quelques ascèses. Vous allez voir, c'est presque nécessaire. Si vous avez lu, par exemple, le pape François dans l'encyclique sur l'écologie, il dit qu'il faut revenir à un mode de vie plus frugal. C'est assez fou, mes frères et sœurs. Avant, les plus anciens parmi nous ont connu le manque de nourriture. On pouvait mourir de manque de nourriture. Aujourd'hui, on meurt par trop plein de nourriture. C'est pas le médecin qui dit ça. Contrevient ça. Alors, je vais essayer de pointer quelques ascèses en fonction de ce style de vie moderne. Trop vite. Nous vivons désormais au milieu de Saint-Gilles. De nos jours en entreprise, pour entendre des collègues, si vous n'avez pas en main plusieurs téléphones portables et que de l'autre main vous ne répondez pas en faisant des mails, vous êtes un niveau de kermesse. Attention parce que l'empressement produit une tension qui, au final, épuise et qui fait qu'il y a une foultitude d'erreurs qui vont être commises et qui vont être commises. Ce bougisme, pour reprendre le terme de Tatagiev, historien des idées, dont je recommande beaucoup les écrits pour comprendre les malaises de notre temps, il n'est pas du tout actuel. Ce bougisme, si caractéristique de notre époque, est devenu une idéologie qui tourne en rond. Ce bougisme est devenu tellement oppressant que les gens qui osent s'arrêter se tuent à lui. Quand j'étais curé du quotidien, qu'est-ce que je voyais parfois? Donc un site comme on parle en ligne, quand on a le rêve, j'étais dans un lieu de rêve. Et donc vous avez des gens qui perspirent toute l'année, ils venaient en vacances, ils trouvaient d'autres activités, mais c'est des touristes qui perspirent. Saint-Vincent de Paul, très intéressant, figure du saint actif par excellence, qui lance plein de trucs, tellement parlant pour nous curés. Représenté dans l'iconographie avec une petite enfant abandonnée dans les bras et une orpheline dans l'autre. Il dit ceci. On gâte souvent les bonnes œuvres pour aller trop vite, pour ce que l'on agit selon ses inclinations, ses envies. Le bien que Dieu veut se fait quasi de lui-même, sans qu'on y pense. Soyez plutôt pâtissant qu'agissant. Très intéressant d'entendre cela de la part d'un saint actif. Et ainsi Dieu fera par vous seul ce que les hommes ensemble ne sauraient faire seuls. Savoir détendre l'âme. Les générations passées ne se sont pas ménagées au travail. Mes parents étaient dans l'agriculture et la viticulture. Quand je pense au travail que papa a fourni, qui faisait deux journées par jour, comme il disait, pour que ma femme soit belle et pour que mes enfants aient ce qu'il faut. Voilà. Quand je pense qu'ils ont vraiment travaillé, ils ont si durement. Si aujourd'hui ils revenaient et diraient un peu comme l'obélisme, ils sont fous, ces beaux rois. On sait plus s'arrêter. Nous ne savons même plus manger humainement. D'ailleurs, on appelle ça fast food. C'est du latin. Nous ne savons même plus nous reposer, nous relâcher, nous ressourcer, et même dormir suffisamment. Je lisais une enquête récemment, donc c'est pas du tout gâteau. Les Français ne dorment pas assez, moins de 7 heures en moyenne. Et la jeunesse qui va pitouiller sur des machins, soi-disant machins intelligents, ça diminue encore le sommeil. Tous les écrans perturbent le sommeil. Un bon principe humain, mais tellement important pour notre vie chrétienne aussi. Là, c'est du latin cette fois-ci. Agir comme Jésus. Traduisez, faire ce que tu es en train de faire. Vous voyez, des fois, on est dans la voiture et on entend bim. L'intention, c'est d'avoir une main sur le téléphone. Qui c'est qui? Le numérique, avec ses hyper sollicitations, rend les gens, je le dis parce que je le vois, et le personnel médical le confirme, les gens sont de plus en plus malades à cause des moyens numériques. Il y a une instabilité de la jeunesse. Lisez, j'ai oublié son nom, le crétin numérique. C'est vraiment très intéressant ce livre. La réflexion souvent entendue. Ah, là, je crois que je suis obligé de passer en mode survie. J'aime beaucoup l'expression. Mais elle n'est pas simplement amusante, elle est inquiétante. Un ancien stratège de Google, James Williams, dit à propos des géants d'Internet, que tout le monde a. Il dit que c'est la forme la plus importante, standardisée et centralisée, du contrôle de l'attention dans l'histoire de l'humanité. Nous assistons à un hold-up de nos armes. On comprend pourquoi Bernanos, dans son bouquin contre les robots, dit que la modernité, dans son aspect le plus négatif, vole nos armes. Faites attention, ça vole nos armes. Là encore, il y a de la scène. Le cardinal Robert Sarra possède ce constat sans concession. Le monde moderne transforme celui qui écoute en un être inférieur. Avec une funeste arrogance, la modernité exalte l'homme ivre d'images et de slogans bruyants, tuant l'homme. Je remarque une chose à travers tous ces lieux de retraite, les liturgies dans lesquelles on donne une place au silence et au chant sacré, où l'on soigne la verticalité et où l'on teste et logoré épuisant, sont recherchées de nos jours et elles vont l'être de plus en plus par la jeunesse. Bon, c'est une petite technique, je veux dire, c'est pas très bien. Avec les retraites, de tourner à droite à gauche et donc de tourner dans les diocèses. Un jour, je vais dans un diocèse, j'assiste à une messe un peu officielle. L'évêque est là, il parle très bien, et puis il y a les prêtres qui sont là. Et on rentre à la sacristie, y a deux prêtres, je sais que je ne connais pas, j'entends parler en train de défaire notre trombe. Et il y en a un qui dit t'as aimé l'homélie de notre évêque? Et l'autre répond laquelle? Parce qu'il y avait une homélie au début. Tiens, celui-là, c'est encore du bon. Mais même dans les églises. Attention, madame, vous nous rendez service de Dieu. Ça nous permet de dire, même dans les églises, il y a une forme, les gens ne se rendent pas compte, on est à célébrer la messe, la consécration, et que tout d'un coup vient une sonnerie de bureau. C'est, on n'est pas bon pour le prêtre en question. On n'est pas au bureau, on est à la messe. Donc il y avait une homélie au début. Une homélie au milieu, là où devrait y avoir une vraie homélie. Et puis bien sûr, il y a des officiels en cas. Les merci à vous. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie liturgie proposée par ce Concile Vatican II, dont tout le monde s'approprie. Je ne suis pas sûr que ce soit ce baratina, ce logo. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie réforme liturgique. Tous les espaces publics maintenant sont tapissés d'un fond sonore, même. Même dans les salles de traite, aujourd'hui, on met de la musique parce qu'il paraît que ça coûte plus de lait. Vous avez des parents? On ne pense pas à ça. Sophie, ça. C'est comme si notre intériorité nous était volée. Saint Faustine, du moins Jésus à Saint Faustine, dans le petit chemin. Pour entendre la voix divine, dit Jésus, il faut garder le silence de l'âme. Et être silencieux, non d'un silence morne, mais d'un silence de l'âme qui est reconnu pour mon Dieu. On peut beaucoup parler sans rompre le silence, et par contre parler peu et toujours rompre le silence. J'ai eu la grâce de rencontrer dans cette période de conversion une personne. Comme vous, les amis, parce qu'arrêtez de croire que tout ce qu'on dit, c'est pour les curés de bonne sœur, qui était mère de famille, grand-mère, qui vivait dans le Saint-Esprit presque plus que tous les prêtres, religieux et évêques que j'ai pu rencontrer. Et elle me disait, mon père, si vous ne voulez pas faire silence, vous n'entendrez pas Dieu vous dire ce qu'il a à vous dire pour vous retraiter. C'est une sérieuse question. Regardez, sans fuir, est-ce qu'il y a eu de la place pour le silence dans la journée d'aujourd'hui? Vous savez, c'est ce que dit la Vierge Marie, le petit voyant de la semaine. Je ne vous demande pas de faire des grandes prières, mais soyez fidèles tous les jours. Un petit lien qui me retient à Jésus. D'émotionnel. Vous avez dû apprendre ça en philosophie quand vous avez fait votre bac. Donc il y a fameux cogito ergo sum de Descartes, c'est-à-dire je pense donc je suis. Avez-vous remarqué qu'on est passé d'un je pense donc je suis à une société où c'est je sens donc je suis? Regardez le langage populaire de la jeunesse. C'est comme tu le sens. C'est-à-dire que le sentir est devenu le critère de la vérité. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de vérité, mais on parle d'authenticité. C'est-à-dire, il faut être authentique avec ses sentiments. Regardez les couples. Les couples aujourd'hui, les sociologues disent que c'est des amours de déliaison qui sont inscrits déjà dans les engagements. La déliaison est déjà inscrite dans l'union du couple. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de sentiment. Mais combien de fois ai-je entendu le père François, vous avez certainement aussi, séparons-nous, puisqu'il n'y a plus rien entre nous, sauf les deux enfants. Mais rien, ça veut dire qu'il n'y a plus de sentiment. Soyons vrais, Ne soyons pas hypocrites comme les anciennes générations qui restaient ensemble alors qu'il n'y avait plus de sentiments entre eux. Je vais faire appel à un père de l'Église, Bismarck. En ce temps-là, vous disiez, vous dans les couples. Et là, il écrit à sa jeune épouse. Je pense que les épouses qui entendraient ces paroles-là de la part de leur époux, il écrit à sa jeune épouse, Madame, mettez-vous bien dans la tête que je ne vous ai pas épousé parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Non, ça va? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, vous voyez, le grand combat spirituel aujourd'hui, c'est de réinjecter le volontaire dans l'émotionnel. Sinon, c'est l'émotionnel qui va nous posséder. Aujourd'hui, il nous faut retrouver l'acceptation de la frustration. Comprenez, dans une société où c'est tout de suite, que tu as tout ce que tu fais. Et dès qu'un jeune est frustré, il est mort. Il est mort. Il nous faut aussi réapprendre les émotions négatives. Je vais terminer là-dessus. J'ai un membre de ma famille avec qui je suis assez lié. Il a commis des choses comme ça. Il y a une période où il était tellement mal. Quand on est mal, on pense. Et lui, c'était avec le Nutella. Toujours des retours qui lui disaient au chemin. C'est là. Bien. Et donc, il a eu le profil, évidemment, pour un jeune. Voilà, il a commencé à faire des tours. Et puis, il a commencé à découvrir des choses. Et puis, comme il est assez lucide, il me dit un tout un jour, « Ah, Jean, j'ai découvert des saveurs amères. » Et ça a coïncidé à la fête qu'il a commencé à faire du sport. Ça a commencé au fait qu'il a commencé à reprendre des études, vous voyez, à sortir du « je suis ». Et dans la vie spirituelle, il y a des saveurs amères. Notre Saint François de Sales, dont nous fêtons le 400e anniversaire aujourd'hui, enfin cette année, de la mort, dit il y a de l'aigre doux dans la vie spirituelle, et les gens veulent que de calme. Il faut redécouvrir l'aigre doux, c'est-à-dire l'abandon quand c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais quand tu t'abandonnes, ça produit une très très grande douceur. Je termine par deux saints. Parlons plus de celle-ci. Nous aimons vous. Thérèse de Lisieux. Petite Thérèse a beaucoup souffert de la maladie mentale de son papa. Et elle se culpabilisait d'avoir des sentiments de désolation, s'il y en a parmi vous qui connaissent ça. Qui ne connaît ça? Qui ne connaît ça? Mais une parole de son père spirituel, le père Pichon, fut un bon pour elle, parce qu'elle se culpabilisait d'être parfois triste intérieurement. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait vraiment? Fort de cet enseignement, Thérèse ne se culpabilise pas d'avoir des remontées de tristesse, mais lorsque la tristesse fait son manège au niveau des sentiments, la sainte de Lisieux choisit de plonger plus profond que les sentiments, dans le fond de son âme, où se trouve à la présence de Dieu. Jean de la Croix le dit, le centre de l'âme, c'est Dieu. Et là, Dieu, c'est comme un lac. C'est comme un lac de paix. Et elle dit, oh, que je voudrais vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance. Et rien que la confiance qui doit nous conduire à la mort. Quand une âme passe de l'obsession de ce qu'elle sent, de son ressenti, à la confiance qui s'appuie sur Dieu qui ne change pas, il est le même hier et aujourd'hui. Cela me fait penser que j'étais séminariste. Je venais ici. Mon père spirituel qui était à Nantes, père Henri Lebrun, m'avait dit un jour, « Ah, t'es bien comme des débutants, Joël. C'est comme ça. » Tu vois, Gérard, il m'avait fait prier une parole du père Léonce de Grand Maison qui rappelait, « Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu est le même hier et aujourd'hui. » Chers amis, dans vos vocations, mariés, célibataires, grands-pères, grands-mères, jeunes couples, jeunes peut-être, en études ou au travail. Si nous perdons la paix, c'est souvent que nous appuyons trop sur nos ressentis et pas sur Dieu qui vit, nous tient et nous